Chapitre 3. Alors cette fois, je crois que j'ai trouvé. Rue d'Amsterdam, vis-à-vis la gare. Trois pièces et un grand balcon. Si tu veux, nous irons voir après ton ministère. C'est haut, 5 étages, mais tu me porteras. C'était si bon, tu te rappelles? Et tout amusé de ce souvenir, elle se frôlait, se roulait dans son cou, cherchait l'ancienne place, sa place. À deux dans leur garni d'hôtel, avec les mœurs du quartier, ses traîneries par l'escalier de filles en filet et en savate, ces cloisons de papier derrière lesquelles grouillaient d'autres ménages, cette promiscuité des clés, des bougeoirs, des bottines, oh, la vie devenait intolérable. Non pas à elle, certes. Avec Jean, oh, le toit, la cave, même l'égout, tout lui était bon pour nicher. Mais la délicatesse de l'amant s'effarouchait de certains contacts auxquels garçon il ne pensait guère. Ses ménages d'une nuit le gênaient, déshonoraient le sien, lui causaient un peu la tristesse et le dégoût de la cage des singes au jardin des plantes, grimaçant tous les gestes et les expressions de l'amour humain. Le restaurant deux fois par jour au boulevard Saint-Michel, dans une grande salle encombrée d'étudiants, d'élèves des beaux-arts, peintres, architectes, qui, sans le connaître, avaient l'habitude de sa figure depuis un an qu'il mangeait là. Il rougissait en poussant la porte de tous ses yeux tournés vers Fanny, entrait avec la gêne agressive des tout jeunes gens qui accompagnent une femme. Et il craignait aussi la rencontre d'un de ses chefs du ministère ou de quelqu'un de son pays. Puis, la question d'économie. « Que c'est cher !» disait-elle chaque fois, en portant et commentant la petite note du dîner. « Mais si nous étions chez nous, j'aurais fait marcher la maison 3 jours pour ce prix-là. »« Eh bien, qui nous empêche ?» Et l'on se mit en quête d'une installation. « C'est le piège. Tous y sont pris. Les meilleurs, les plus honnêtes. » Par cet instinct de propreté, de goût du home, qu'ont mis en eux l'éducation familiale et la tiédeur du foyer. L'appartement de la rue d'Amsterdam fut loué tout de suite et trouvé charmant, malgré ses pièces en enfilade qui ouvraient la cuisine et la salle sur une arrière-cour moisie où montaient d'une taverne anglaise des odeurs de rinsure et de chlore. La chambre sur la rue en pente et bruyante, secoué jour et nuit au chaos des fourgons, camions, fiacres, omnibus, au sifflet d'arrivée et de départ, tout le vacarme de la gare de l'Ouest, développant en face ses toitures en vitrage, couleur d'eau sale. L'avantage, c'était de savoir le train à sa porte, et Saint-Cloud, Ville d'Avray, Saint-Germain, les vertes stations des bords de la Seine, presque sous leurs terrasses. Car ils avaient une terrasse, large et commode, qui gardait de la munificence des anciens locataires, une tente de zinc peinte en coutil rayé, ruisselante et triste sous le crépitement des pluies d'hiver, mais où l'on serait très bien l'été pour dîner au bon air, comme dans un chalet de montagne. On s'occupa des meubles. Jean, ayant fait part chez lui de son projet d'installation, tante d'Yvonne, qui était comme l'intendante de la maison, envoya l'argent nécessaire, et sa lettre annonçait en même temps le prochain arrivage d'une armoire, d'une commode et d'un grand fauteuil canné tiré de la chambre du vent à l'intention du Parisien. Cette chambre qu'il revoyait au fond d'un couloir de Castelet, toujours inhabitée, les volets clos attachés d'une barre, la porte fermée au verrou, était condamnée par son exposition au coup du mistral qui la faisait craquer comme une chambre de phare. On y entassait les vieilleries, ce que chaque génération d'habitants reléguait au passé devant les acquisitions nouvelles. Ah, si Divonne avait su à quelle singulière sieste servirait le fauteuil canné, et que des jupons de surat, des pantalons à manchettes, Emplir les tiroirs de la commode d'Empire. Enfin, mais le remords de Gossin à ce sujet se trouvait perdu dans les mille petites joies de l'installation. C'était si amusant, après le bureau entre chien et loup, de partir en grande course, serrés aux bras l'un de l'autre, et de s'en aller dans quelques rues de faubourg, choisir une salle à manger, le buffet, la table et 6 chaises, ou des rideaux de cretonne à fleurs pour la croisée et le lit. Lui acceptait tout, les yeux fermés. Mais Fanny regardait pour deux, essayait les chaises, faisait glisser les battants de la table et montrait une expérience marchandeuse. Elle connaissait les maisons où l'on avait appris de fabrique une batterie de cuisine complète pour petit ménage, les 4 casseroles en fer, la 5e émaillée pour le chocolat du matin. Jamais de cuivre, c'est trop long à nettoyer. 6 couverts de métal avec la cuillère à potage et 2 douzaines d'assiettes en faïence anglaise, solides et gaies. Tout cela compté, préparé, emballé, comme une dinette de poupée. Pour les draps, serviettes, linge de toilette et de table, elle connaissait un marchand, le représentant d'une grande fabrique de Roubaix, chez qui on payait à tant par mois. Et toujours à guetter les devantures en quête de ces liquidations, de ces débris de naufrage que Paris amène continuellement dans l'écume de ses bords, elle découvrait au boulevard de Clichy l'occasion d'un lit superbe, presque neuf, et large à y coucher en rang les 7 demoiselles de l'ogre. Lui aussi, en revenant du bureau, essayait des acquisitions. Mais il ne s'entendait à rien, ne sachant dire non, ni s'en aller les mains vides. Entrer chez un brocanteur pour acheter un huilier ancien qu'elle lui avait signalé, il rapportait, en guise de l'objet déjà vendu, un lustre de salon à pendeloques, bien inutile puisqu'il n'avait pas de salon. « Mais nous le mettrons dans la véranda, » disait Fanny, pour le consoler. Et le bonheur de prendre des mesures, les discussions sur la place d'un meuble, et les cris, les rires fous, les bras éperdus au plafond quand on s'apercevait que malgré toutes les précautions, malgré la liste très complète des achats indispensables, il y avait toujours quelque chose d'oublié. Ainsi la râpe à sucre. Conçoit-on qu'ils allaient se mettre en ménage sans râpe à sucre? Puis, tout acheté et mis en place, les rideaux pendus, une mèche à la lampe neuve, quelle bonne soirée que celle de l'installation, la revue minutieuse des 3 pièces avant de se coucher, et comme elle riait en éclairant pendant qu'il verrouillait la porte. Encore un tour, encore, elle ferme bien, soyons bien chez nous. Alors, ce fut une vie nouvelle, délicieuse. En quittant son travail, il rentrait vite, pressé d'être arrivé, en pantoufles au coin de leur feu. Et dans le noir pataugeage de la rue, il se figurait leur chambre allumée, chaude, égayée de ces vieux meubles provinciaux que Fanny traitait par avance de débarras et qui s'étaient trouvés de fort jolies anciennes choses. L'armoire, surtout un bijou Louis XVI, avec ses panneaux peints, représentant des fêtes provençales, des bergers en jaquette fleurie, des danses au galoubet et au tambourin. La présence familière à ses yeux d'enfant de ces vieilleries démodées lui rappelait la maison paternelle, consacrait son nouvel intérieur dont il était à goûter le bien-être. Dès son coup de sonnette, Fanny arrivait, soignée, coquette, sur le pont, comme elle disait. Sa robe de laine noire, très unie, mais taillée sur un patron de bon faiseur, une simplicité de femme qui a eu de la toilette, les manches retroussées, un grand tablier blanc, car elle faisait elle-même leur cuisine et se contentait d'une femme de ménage pour les grosses besognes qui gercent les mains ou les déforme. Elle s'y entendait même très bien, savait une foule de recettes, plats du nord ou du midi, variés comme son répertoire de chansons populaires. Que le dîner fini, le tablier blanc accroché derrière la porte refermée de la cuisine, elle entonnait de sa voix de contralto, meurtrie et passionnée. En bas, la rue grondait, roulait en torrent. La pluie fine tintait sur le zinc de la véranda. Et Gossin, les pieds au feu, étalé dans son fauteuil, regardait en face les vitres de la gare et les employés courbés à écrire sous la lumière blanche de grands réflecteurs. Il était bien, se laissait bercer. Amoureux, non, mais reconnaissant de l'amour dont on l'enveloppait, de cette tendresse toujours égale. Comment avait-il pu se priver si longtemps de ce bonheur, dans la crainte dont il riait maintenant, de l'acoquinement d'une entrave quelconque? Est-ce que sa vie n'était pas plus propre que lorsqu'il allait de fille en fille, risquant sa santé? Aucun danger pour plus tard. Dans 3 ans, quand il partirait, la brisure se ferait toute seule et sans secousse. Fanny était prévenue. Ils en parlaient ensemble comme de la mort, d'une fatalité lointaine, mais inéluctable. Restait le grand chagrin qu'ils auraient chez lui en apprenant qu'il ne vivait pas seul, et la colère de son père, si rigide et si prompt. Mais comment pourrait-il savoir? Jean ne voyait personne à Paris. Son père, le consul, comme on disait là-bas, était retenu toute l'année par la surveillance du domaine très considérable qu'il faisait valoir et ses rues de bataille avec la vigne. La mère impotente ne pouvait faire sans elle un pas ni un geste, laissant à Divonne la direction de la maison, le soin des deux petites sœurs jumelles, Marthe et Marie, dont la double naissance, sans surprise, avait tout ou jamais emporté ses forces actives. Quant à l'oncle Césaire, le mari de Divonne, c'était un grand enfant qu'on ne laissait pas voyager seul. Et Fanny, maintenant, connaissait toute la famille. Lorsqu'il recevait une lettre de Castelet, au bas de laquelle les Besson avaient mis quelques lignes de leur grosse écriture à petits doigts, elle la lisait par-dessus son épaule, s'attendrissait avec lui. Mais de son existence à elle, il ne savait rien, ne s'informait pas. Il avait le bel égoïsme inconscient de sa jeunesse. Aucune jalousie, aucune inquiétude. Plein de sa propre vie, il la laissait déborder, pensait tout haut, se livrait, pendant que l'autre restait muette. Ainsi, les jours, les semaines s'en allaient, dans une heureuse quiétude, un moment troublé par une circonstance qui les émut beaucoup, mais diversement. Elle se crut enceinte. Et le lui apprit avec une joie telle qu'il ne put que la partager. Au fond, il avait peur. Un enfant à son âge, qu'en ferait-il? Devait-il le reconnaître? Et quel gage entre cette femme et lui, quelle complication d'avenir! Soudainement, la chaîne lui apparut lourde, froide et scellée. La nuit ne dormait pas plus qu'elle, et côte à côte dans leur grand lit, ils rêvaient, les yeux ouverts, à 1 000 lieues l'un de l'autre. Par bonheur, cette fausse alerte ne se renouvela plus, et ils reprirent leur train de vie paisible, exquisement close. Puis, l'hiver fini, le vrai soleil enfin revenu, leur case s'embellissait encore, agrandie de la terrasse et de la tente. Le soir, ils dînaient là, sous le ciel teinté de vert, que rayait le sifflement en coulant des hirondelles. La nuit envoyait ses bouffées chaudes et tous les bruits des maisons voisines. Mais le moindre souffle d'air était pour eux, et ils s'oubliaient les heures, leurs genoux enlacés, n'y voyant plus. Jean se rappelait des nuits semblables au bord du Rhône, rêvait de consulats lointains dans des pays très chauds, de ponts de navires en partance, où la brise aurait cette haleine longue dont frémissait le rideau de la tente. Et lorsqu'une caresse invisible murmurait sur ses lèvres, M'aimes-tu, m'aimes-tu? Il revenait toujours de très loin pour répondre, Oh oui, je t'aime. Voilà ce que c'est de les prendre si jeunes. Ils ont trop de choses dans la tête. Sur le même balcon, séparés d'eux par une grille en fer enguirlandée de fleurs grimpantes, un autre couple roucoulait. Monsieur et Madame Etema, des gens mariés, très gros, dont les baisers claquaient comme des gifles. Merveilleusement appareillés, dans une conformité d'âge, de goût, de lourde tournure, c'était touchant d'entendre ces amoureux à fin de jeunesse chanter en duo tout bas, en s'appuyant à la balustrade, de vieilles romances sentimentales. Mais je l'entends qui soupire dans l'ombre, c'est un beau rêve à laisser moi dormir. Il plaisait à Fanny, elle aurait voulu les connaître. Quelquefois même la voisine et elle échangeaient par-dessus le fer noirci de la rampe un sourire de femmes amoureuses et heureuses. Mais les hommes, comme toujours, se tenaient plus raides et l'on ne se parlait pas. Jean, revenant du Quai d'Orsay, une après-midi, quand il s'entendit appeler au coin de la rue Royale. Il faisait un jour admirable, une lumière chaude, où Paris s'épanouissait à ce tournant du boulevard qui, par un beau couchant vers l'heure du bois, n'a pas son pareil au monde. Mettez-vous là, belle jeunesse, et buvez quelque chose. Ça m'amuse les yeux de vous regarder. Deux grands bras l'avaient happé, assis sous la tente d'un café, envahissant le trottoir de ses trois rangs de table. Il se laissait faire, flatté d'entendre autour de lui ce public de provinciaux, d'étrangers, jaquettes rayées et chapeaux ronds, chuchoter curieusement le nom de Caudal. Le sculpteur, accablé devant une absinthe qui allait avec sa taille militaire et sa rosette d'officier, avait auprès de lui l'ingénieur Deschelette, arrivé de la veille, toujours le même, hâlé et jaune, ses pommettes en saillie remontant ses petits yeux bonds, sa narine gourmande qui reniflait Paris. Dès que le jeune homme fut assis, Caudal le montrant avec une fureur comique, Est-il beau cet animal-là? Dire que j'ai eu cet âge et que je frisais comme ça. Oh, la jeunesse, la jeunesse! Toujours donc, fit Deschelette, saluant d'un sourire la toquade de ses amis. Mon cher, ne riez pas. Tout ce que j'ai, ce que je suis, les médailles, les croix, l'institut, le tremblement. Je le donnerais pour ces cheveux-là et ce teint de soleil. Puis revenant à Gossin avec sa brusque allure. Et ça fout, qu'est-ce que vous en faites? On ne la voit plus? Jean arrondissait les yeux sans comprendre. Ben, vous n'êtes donc plus avec elle? Et devant son ahurissement, Caudal ajouta sur un ton d'impatience, « Ça faut, voyons! Fanny le Grand, ville d'Avray! » Oh non, c'est fini, il y a longtemps. Comment lui vint ce mensonge? Ben, par une sorte de honte, de malaise, à ce nom de « Ça faut » donné à sa maîtresse. La gêne de parler d'elle avec d'autres hommes, peut-être aussi le désir d'apprendre des choses qu'on ne lui aurait pas dites sans cela. Tiens, sa faux, elle roule encore ? Demanda Deschelettes, distrait, tout à l'ivresse de revoir l'escalier de la Madeleine, le marché aux fleurs, la longue enfilade des boulevards entre deux rangs de bouquets verts. Ben, vous ne vous la rappelez donc pas chez vous l'année dernière ? Oh, elle était superbe dans sa tunique de Fella. Et le matin de cet automne, où je l'ai trouvé déjeunant avec ce joli garçon chez Langlois, oh, vous auriez dit une mariée de 15 jours. Et quel âge a-t-elle donc, depuis le temps qu'on la connaît ? Caudal leva la tête pour chercher. Quel âge, oh ? Quel âge, voyons, 17 ans, 53 ? Quand elle me posait ma figure, ben nous sommes en 73, ainsi compté. Tout à coup, ses yeux s'allumèrent. Oh, si vous l'aviez vue il y a 20 ans, longue, fine, la bouche en arc, le front solide, des bras, des épaules encore un peu maigres, mais cela allait bien à la brûlure de sa peau. Et la femme, la maîtresse, oh, ce qu'il y avait dans cette chair à plaisir, ce qu'on tirait de cette pierre à feu, de ce clavier, où ne manquait pas une note, toute la lyre, comme dirait la gournerie. Jean, très pâle, demanda « Est-ce qu'il a été son amant aussi, celui-là ?»« La gournerie, oh, oh, je crois bien, j'en ai assez souffert. » 4 ans que nous vivions ensemble comme mari et femme, 4 ans que je la couvais, que je m'épuisais pour suffire à tous ses caprices, maître de chant, de piano, de cheval, est-ce que je sais ? Et quand je l'ai eue bien polie, patinée, taillée en pierre fine, sortie du ruisseau où je l'avais ramassée une nuit devant le balragache, ce bel âtre à stiqueur de rime est venu me la prendre chez moi, à la table amie, où il s'asseyait tous les dimanches. » Il souffla très fort, comme pour chasser cette vieille rancune d'amour qui vibrait encore dans sa voix, puis il reprit plus calme. « D'ailleurs, sa canaillerie ne lui a pas profité. Leurs 3 ans de ménage, ça a été l'enfer. Ce poète aux airs câlins était rat, méchant, maniaque. Il se peignait, fallait voir. Quand on allait chez eux, on a trouvé un bandeau sur l'œil. Lui, la figure sabrée de griffes. Mais le beau, c'est lorsqu'il a voulu la quitter. Elle s'accrochait comme une teigne, le suivait, crevait sa porte, l'attendait couchée en travers de son paillasson. Une nuit, en plein hiver, elle est restée 5 heures en bas de chez la farcie, où j'étais monté toute la bande. Une pitié. Mais le poète élégiaque demeurait implacable jusqu'au jour où, pour s'en débarrasser, il a fait marcher la police. Oh, un joli monsieur. Et comme fin finale, remerciement à cette belle fille qui lui avait donné le meilleur de sa jeunesse, de son intelligence et de sa chair, il lui a vidé sur la tête un volume de vers haineux, baveux d'imprécations, de lamentations, le livre de l'amour, son plus beau livre. Immobile, le dos tendu, Gossin écoutait, aspirant à tout petit coup par une longue paille la boisson glacée servie devant lui. Quelques boissons, bien sûr, qu'on lui avait versées là et qui le gelaient du cœur aux entrailles. Ils grelottaient malgré leur splendide, voyaient dans une reculée blafarde des ombres qui allaient et venaient, un tonneau d'arrosage arrêté devant la Madeleine, et cet entrecroisement de voitures roulant sur la terre molle, silencieusement comme sur de la ouate. Plus de bruit dans Paris, plus rien que ce qui se disait à cette table. Maintenant, Deschelettes parlait. C'est lui qui versait le poison. Oui, quelle atroce chose que ces ruptures. Et sa voix tranquille et railleuse, prenait une expression de douceur, de pitié infinie. On a vécu les années ensemble, dormi l'un contre l'autre, confondu ses rêves, sa sueur. On s'est tout dit, tout donné. On a pris des habitudes, des façons d'être, de parler, même des traits l'un de l'autre. On se tient de la tête aux pieds, le collage enfin. Puis, brusquement, on se quitte, on s'arrache. Mais comment font-ils? Comment a-t-on ce courage? Oh, moi, jamais je ne pourrais. Oui, trompé, outragé, salé de ridicule et de boue, la femme pleurerait, me dirait reste, alors je m'en irais pas. Et voilà pourquoi, quand j'en prends une, c'est jamais qu'à la nuit, pas de lendemain, comme disait la vieille France, ou alors le mariage, c'est définitif et plus propre. Pas de lendemain, pas de lendemain. Vous en parlez à votre aise, il y a des femmes qu'on ne garde pas qu'une nuit. Celle-là, par exemple. Oh, je ne lui ai pas donné une minute de grâce, dit Deschelette, avec un placide sourire que le pauvre amant trouva hideux. Alors, si vous n'étiez pas son type, quand quoi? C'est une fille, quand elle aime, elle se cramponne. Oh, elle a le goût du ménage. Dirais-je pas de chance dans ses installations? Elle se met avec de joie. Le romancier, il meurt. Elle passe à Ezzano, il se marie. Après être venu le beau flamand, là, le graveur, l'ancien modèle, car elle a toujours eu le béguin du talent ou de la beauté. Vous savez, son épouvantable aventure. Quelle aventure? Demanda Gossin, la voix étranglée. Et il se remit à tirer sur sa paille en écoutant le drame d'amour qui passionna Paris il y a quelques années. Oh, le graveur était pauvre, fou de cette femme, et de peur d'être lâché pour lui maintenir son luxe, il fit le faux billet de banque. Découvert presque aussitôt, coffré avec sa maîtresse, il en fut quitte pour 10 ans de réclusion, elle 6 mois de prévention à Saint-Lazare, la preuve de son innocence ayant été faite. Et Caudal rappelait à Deschelette, qui avait suivi le procès, comme elle était jolie sous son petit bonnet de Saint-Lazare, et crâne, pas géniarde, fidèle à son homme jusqu'au bout. Et sa réponse à ce vieux cornichon le président, et le baiser qu'elle envoyait à Flamand par-dessus les tricornes des gendarmes en lui criant d'une voix à attendrir les pierres. « T'ennuie pas, mamie, les beaux jours reviendront, nous nous aimerons encore. » Tout de même, ça l'avait un peu dégoûté du ménage, la pauvre fille. Bah, depuis, lancée dans le monde chic, elle a pris des amants au mois, à la semaine et jamais d'artiste. Oh, les artistes, elle en a eu le peur. J'étais seul, je crois bien qu'elle eût continué à voir. De loin en loin, elle venait fumer sa cigarette à l'atelier. Puis j'ai passé des mois sans entendre parler d'elle, jusqu'au jour où je l'ai retrouvée en train de déjeuner avec ce bel enfant et lui mangeant des raisins sur la bouche. Je me suis dit, ça y est, voilà ma Sappho qui est repincée. Jean ne put en entendre davantage. Il se sentait mourir de tout ce poison absorbé. Après le froid de tout à l'heure, une brûlure lui tordait la poitrine, montait à sa tête bourdonnante et près d'éclater comme une tôle chauffée à blanc. Il traversa la chaussée en chancelant sous les roues des voitures. Des cochers criaient « Mais qu'en avait-il ces imbéciles ?» En passant sur le marché de la Madeleine, il fut troublé par une odeur d'héliotrope, l'odeur préférée de sa maîtresse. Il pressa le pas pour la fuir, et furieux, déchiré, il pensait tout haut. « Ma maîtresse ! Oui, une belle ordure, Sappho, Sappho ! Mais dire que j'ai vécu 1 an avec ça !» Et il répétait le nom avec rage, se rappelant l'avoir vu sur les petits journaux parmi d'autres sobriquets de filles, dans le grotesque almanach Gotha de la galanterie. Sappho, Cora, Caro, Phrynée, Jeanne de Poitiers, Le Phoque. Et avec les cinq lettres de son nom abominable, toute la vie de cette femme lui passait en fuite d'égout sous les yeux. L'atelier de Caudal, les trépiniers chez la Gournerie, les factions de nuit devant les bouges sur le paillasson du poète. Puis le beau graveur, les faux, la cour d'assises, et le petit bonnet du bail qui lui allait si bien, et le baiser jeté à son faussaire. T'ennuie pas, mamie ? Mamie, le même nom, la même caresse que pour lui. Quelle honte ! Ah, il allait joliment de balayer ces saletés-là ! Et toujours cette odeur d'héliotrope qui le poursuivait dans un crépuscule du même lilas pâle que la toute petite fleur. Tout à coup, il s'aperçut qu'il était encore à arpenter le marché comme un pont de bateau. Il reprit sa course, arriva d'une traite rue d'Amsterdam, bien décidé à chasser cette femme de chez lui, à la jeter sur l'escalier sans explication, en lui crachant l'injure de son nom dans le dos. À la porte, il hésita, réfléchit, fit quelques pas encore. Elle allait crier, sangloter, lâcher par la maison tout son vocabulaire du trottoir, comme là-bas, rue de l'Arcade. Écrire ? Oui, c'est cela. Il valait mieux écrire, lui régler son compte en quatre mots bien féroces. Il entra dans une taverne anglaise, déserte et morne sous le gaz qu'on allumait, s'assit à une table empoissée, près de l'unique consommateur, une fille à tête de mort, qui dévorait du saumon fumé sans boire. Il demanda une pinte d'ale, n'y toucha pas, et commença une lettre. Mais trop de mots se pressaient dans sa tête qui voulaient sortir à la fois et que l'encre décomposée et grumeleuse traçait lentement à son gré. Il déchirait deux ou trois commencements, s'en allait enfin sans écrire, quand tout bas, près de lui, une bouche pleine et vorace demanda timidement « Vous ne buvez pas, on peut ?» Il fit signe que oui. La fille se jeta sur la pinte et la vida d'une goulée violente qui révélait la détresse de cette malheureuse ayant tout juste dans sa poche de quoi rassasier sa faim sans l'arroser d'un peu de bière. Une pitié lui vint qui l'apaisa, l'éclaira subitement sur les misères d'une vie de femme. Et il se mit à juger plus humainement, à raisonner son malheur. Après tout, elle ne lui avait pas menti, et s'il ne savait rien de sa vie, c'est qu'il ne s'en était jamais soucié. Que lui reprochait-il, son temps à Saint-Lazare ? Mais puisqu'on l'avait acquitté, porté presque en triomphe à la sortie, alors quoi ? D'autres hommes avant lui ? Oh, est-ce qu'il ne le savait pas ? Quelle raison de lui en vouloir davantage, parce que les noms de ses amants étaient connus, célèbres, qu'il pouvait les rencontrer, leur parler, regarder leurs portraits aux devantures ? Devait-il lui faire un crime d'avoir préféré cela ? Et tout au fond de son être, se levait une fierté mauvaise, inavouable, de la partager avec ses grands artistes, de se dire qu'il l'avait trouvée belle. Ah, son âge, on n'est jamais sûr, on ne sait pas bien. On aime la femme, l'amour, mais les yeux et l'expérience manquent, et le jeune amant qui vous montre un portrait de sa maîtresse cherche un regard, une approbation qui le rassure. La figure de Sappho lui semblait grandie, auréolée, depuis qu'il la savait chanter par la Gournerie, fixée par Caudal dans le marbre et le bronze. Mais, brusquement repris de rage, il quittait le banc où sa méditation l'avait jeté sur un boulevard extérieur, au milieu des cris d'enfants, des commérages de femmes d'ouvriers dans la poudreuse soirée de juin. Et il se remettait à marcher, à parler tout haut furieusement. Joli, le bronze de Sappho, du bronze de commerce qui a traîné partout, banal comme un air d'orgue, comme ce mot le Sappho, qui à force de rouler les siècles s'est encrassé de légendes immondes, sur sa grâce première et d'un nom de déesse est devenu l'étiquette d'une maladie. Quel dégoût que tout cela, mon Dieu! Il s'en allait ainsi, tour à tour apaisé ou furieux, à ce remous d'idées de sentiments contraires. Le boulevard s'assombrissait, devenait désert. Une fadeur âcre traînait dans l'air chaud. Et il reconnaissait la porte du grand cimetière où il était venu l'année d'avant assister avec toute la jeunesse à l'inauguration d'un buste de Caudal sur la tombe de De Joie, le romancier du Quartier Latin, l'auteur des Cendrillonettes. De Joie, Caudal. L'étrange accent que ces noms prenaient pour lui depuis 2 heures. Et comme elle lui semblait menteuse et lugubre, l'histoire de l'étudiante et de son petit ménage, maintenant qu'il en savait les tristes dessous et qu'il avait appris par Deschelette l'affreux surnom donné à ses mariages du trottoir. Et toute cette ombre, plus noire, du voisinage de la mort, l'effrayait. Il revint sur ses pas, frôlant des blouses qui rôdaient, silencieuses comme des ailes de nuit, des jupes sordides à la porte de bouge, dont les vitres dépolies découpaient de grandes lumières de lanternes magiques, où des couples passaient, s'embrassaient. Quelle heure! Oh, il se sentait brisé comme une recrue à la fin de l'étape, et de sa douleur assourdie, tombé dans ses jambes, il ne lui restait que la courbature. Oh, se coucher, dormir. Puis au réveil, froidement, sans colère, il dirait à la femme, « Voilà, je sais qui tu es. Ce n'est pas de ta faute ni la mienne, mais nous ne pouvons plus vivre ensemble. Séparons-nous. » Et pour se mettre à l'abri de ses poursuites, il irait embrasser sa mère et ses sœurs, secoué au vent du Rhône, au libre et vivifiant mistral, les souillures et les froids de son mauvais rêve. Elle s'était couchée, lasse d'attendre, et dormait en plein, sous la lampe, un livre ouvert sur le drap devant elle. Son approche ne l'éveilla pas. Et debout près du lit, il la regardait curieusement, comme une femme nouvelle, une étrangère, qu'il aurait trouvée là. Belle, oh, belle, les bras, la gorge, les épaules d'un ambre fin, solide, sans tache ni fêlure. Mais sur ses paupières rougies, peut-être le roman qu'elle lisait, peut-être l'inquiétude, l'attente, sur ses traits détendus dans le repos et que ne soutenait plus l'âpre désir de la femme qui veut être aimée. Quelle lassitude, quels aveux, son âge, son histoire, ses bordées, ses caprices, ses collages, et Saint-Lazare, les coups, les larmes, les terreurs, tout se voyait, s'étalait, et les meurtrissures violettes du plaisir et de l'insomnie, et le pli de dégoût faisant la lèvre inférieure, usé, fatigué, comme une margelle où tout le communal est venu boire, et la bouffissure commençante qui délie les chairs pour les rides de la vieillesse. Cette trahison du sommeil, le silence de mort enveloppant cela, c'était grand, c'était sinistre. Un champ de bataille à la nuit, avec toute l'horreur qui se montre et celle qu'on devine au vague mouvement de l'ombre. Et tout à coup, il vint au pauvre enfant une grosse, une étouffante envie de pleurer. Chapitre 4. Ils achevaient de dîner, la fenêtre ouverte, au long sifflement des hirondelles saluant la tombée de la nuit. Jean ne parlait pas, mais il allait parler, et toujours de la même cruelle chose qui le hantait, dont il torturait Fanny depuis la rencontre avec Caudal. Elle, voyant ses yeux baissés, l'air faussement indifférent qu'il prenait pour de nouvelles questions, devina et le prévint. Écoute, je sais ce que tu vas me dire. Épargne-nous, je t'en prie. On s'épuise à la fin, puisque c'est mort tout ça, que je n'aime que toi, qu'il n'y a plus que toi au monde. Si c'était mort, comme tu dis, tout se passait. Il la regardait au fond de ses beaux yeux d'un gris frissonnant et changeant à chaque impression. Tu ne garderais pas des choses qui te le rappellent, oui, là-haut, dans l'armoire. Le gris se velouta d'un noir d'ombre. Ah, tu sais donc, tout ce fatras de lettres d'amour, de portraits, ces archives galantes et glorieuses sauvées de tant de débâcles, il allait donc falloir s'en défaire. Au moins, me croiras-tu après ? Et sur un sourire incrédule qui la défiait, elle courut chercher le coffret de laque, dont les ferrures ciselées entre les piles délicates de son linge avaient si fort intrigué son amant depuis quelques jours. « Tiens, brûle, déchire, c'est à toi. » Mais il ne se pressait pas de tourner la petite clé. Regardez les cerisiers à fruits de nacre rose et les vols de cigognes incrustés sur le couvercle qu'il fit sauter brusquement. Tous les formats, toutes les écritures, papiers de couleur aux entêtes dorées, vieux billets jaunis cassés aux pliures, griffonnage au crayon sur des feuilles de carnet, des cartes de visite en tas, sans ordre, comme en un tiroir souvent fouillé et bousculé où lui-même enfonçait maintenant ses mains tremblantes. Passe-les-moi, je les brûlerai sous tes yeux. Elle parlait fiévreusement, accroupie devant la cheminée, une bougie allumée par terre à côté d'elle. Donne ! Mais lui, non, attends. Et plus bas comme honteux. Je voudrais lire. Mais pourquoi ? Tu vas te faire mal encore. Elle ne songeait qu'à sa souffrance et non à l'indélicatesse de livrer ainsi les secrets de passion, la confession sur l'oreiller de tous ces hommes qu'il avait aimés. Et se rapprochant, toujours à genoux, elle lisait en même temps que lui les pieds du coin de l'œil. 10 pages signées la Gournerie en 1861, d'une écriture longue et féline, dans lesquelles le poète, envoyé en Algérie pour le compte-rendu officiel et lyrique du voyage de l'empereur et de l'impératrice, faisait à sa maîtresse une description éblouissante des fêtes. Alger, débordante et grouillant, vrai Bagdad des mille et une nuits, toute l'Afrique accourue, entassée autour de la ville, battant ses portes à les rompre comme un simoun. Caravane de nègres et de chameaux chargés de gomme, tentes de poils dressés, une odeur de musc humain sur toute cette singerie qui bivouaquait au bord de la mer, dansait la nuit autour de grands feux, s'écartait chaque matin devant l'arrivée des chefs du Sud, pareils à des rois mages, avec la pompe orientale, les musiques discordantes, flûtes de roseaux, petits tambours rauques, le goût entourant l'étendard du prophète aux trois couleurs, et derrière, menés en laisse par des nègres, les chevaux destinés en présent à l'embrour, vêtus de soie, carabassonnés d'argent, secouant à chaque pas des grelots et des broderies. Et le génie du poète rendait tout cela vivant et présent. Les mots brillaient sur la page comme ces pierres sans monture que jugeait le joaillier sur du papier. Vraiment, elle pouvait être fière, la femme aux genoux, de qui l'on jetait ses richesses. Fallait-il qu'elle fût aimée, puisque, malgré la curiosité de ses fêtes, le poète ne songeait qu'à elle, mourait de ne pas la voir. « Oh, cette nuit, j'étais avec toi sur le grand divan de la rue de l'Arcade. Tu étais nue, tu étais folle, tu criais de joie sous mes caresses, quand je me suis réveillé en sursaut, roulé dans un tapis sur ma terrasse, en pleine nuit d'étoiles. Le cri du médecin montait d'un minaret voisin, en claire et limpide fusée voluptueuse plutôt que brillante, et c'est toi que j'entendais encore en sortant de mon rêve. Quelle force mauvaise le poussait donc à continuer sa lecture, malgré l'horrible jalousie qui blanchissait ses lèvres et contractait ses mains. Doucement, câlinement, Fanny essayait de lui reprendre la lettre. Mais il la lut jusqu'au bout, et après cela une autre, puis une autre, les laissant tomber au fur et à mesure, avec un détachement de mépris, d'indifférence, sans regarder la flamme qui s'avivait dans la cheminée aux effusions lyriques et passionnées du grand poète. Et quelquefois, dans le débordement de cet amour exagéré à la température africaine, le lyrisme de l'amant s'entachait de quelque grosse obscénité de corps de garde dont auraient été surprises et scandalisées les lectrices mondaines du livre de l'amour, d'un spiritualisme raffiné, immaculé comme la corne d'argent de la Jungfrau. Misère du cœur, c'est à ces passages surtout que Jean s'arrêtait, à ces souillures de la page, sans se douter des traits sauts nerveux qui chaque fois agitaient sa figure. Même il eut le courage de ricaner à ce post-scriptum qui suivait le récit éblouissant d'une fête d'Aïssaouas. Je relis ma lettre, il y a vraiment des choses pas mal, mets-la-moi de côté, je pourrais m'en servir. Ah, monsieur, qui ne laissait rien traîner, fit-il en passant un autre feuillet de la même écriture, où sur un ton glacé d'homme d'affaires, la gourderie réclamait un recueil de chansons arabes et une paire de babouches en paille de riz. C'était la liquidation de leur amour. Il avait su s'en aller, il était fort, celui-là. Et, sans s'arrêter, Jean continuait à drainer ce marécage d'où montait une haleine chaude et malsaine. La nuit venue, il avait mis la bougie sur la table et parcourait des billets très courts, illisiblement tracés comme un poinçon par de trop gros doigts qui, à tout moment, dans une brusquerie de désir ou de colère, trouait et déchirait le papier. Les premiers temps d'une liaison avec Caudal, rendez-vous, souper, partie de campagne, puis des brouilles de supplis en retour, des cris, des injures ignobles et basses d'ouvriers, coupées tout à coup de drôleries, de mots cocasses, de reproches sanglotés, toute la faiblesse mise à nu du grand artiste devant la rupture et l'abandon. Le feu prenait cela, allongeait le grand jet rouge où formait grésiller la chair, le sang, les larmes d'un homme de génie. Mais qu'importait à Fanny, tout au jeune amant qu'elle surveillait, dont l'ardente fièvre la brûlait à travers leurs vêtements. Il venait de trouver un portrait à la plume, signé Gavarni avec cette dédicace à mon amie Fanny Legrand, dans une auberge de Dampierre un jour qu'il pleuvait. Une tête intelligente et douloureuse, aux yeux caves, quelque chose d'amer et de ravagé. Qui est-ce ? André de Joie. J'y tenais à cause de la signature. Il eut un « Garde-le, tu es libre, si contraint, si malheureux » qu'elle prit le dessin, le jeta au feu en chiffon, pendant que lui s'abîmait dans la correspondance du romancier, une suite navrante, datée de plages d'hiver, de villes d'eau, où l'écrivain, envoyé pour sa santé, se désespérait de sa détresse physique et morale, se forant le crâne pour y trouver une idée loin de Paris, et mêlait à des demandes de potions, d'ordonnances, à des inquiétudes d'argent ou de métier, envoie des preuves de billets renouvelés, toujours le même cri de désir et d'adoration vers ce beau corps de Sappho que les médecins lui défendaient. Jean murmurait, enragé et candide, « Mais qu'est-ce qu'ils avaient donc tous pour être après toi comme ça ? » C'était pour lui la seule signification de ces lettres désolées, confessant le désarroi d'une de ces existences glorieuses qu'envient les jeunes gens et dont rêvent les femmes romanesques. Mais oui, qu'avaient-ils donc tous? Et que leur faisait-elle boire? Il éprouvait la souffrance atroce d'un homme qui, garrotté, verrait outragé devant lui la femme qu'il aime. Et pourtant, il ne pouvait se décider à vider d'un coup les yeux fermés ce fond de boîte. À présent venait le tour du graveur qui, misérable, inconnu, sans autre célébrité que celle de la Gazette des Tribunaux, ne devait sa place dans le reliquaire qu'au grand amour qu'on avait eu pour lui. Déshonorantes ces lettres datées de Mazas, et niaises, gauches, sentimentales comme celles du troupier à sa payse. Mais on y sentait, à travers les poncifs de romance, un accent de sincérité dans la passion, un respect de la femme, un oubli de soi-même qui le distinguait des autres, ce forçat. Ainsi, quand il demandait pardon à Fanny du crime de l'avoir trop aimée, ou quand, du grève du palais de justice, tout de suite après sa condamnation, il écrivait sa joie de savoir sa maîtresse acquittée et libre. Il ne se plaignait de rien. Il avait eu près d'elle, grâce à elle, 2 ans de bonheur si plein, si profond, que le souvenir en suffirait pour remplir sa vie, adoucir l'horreur de son sort, et il terminait par la demande d'un service. « Tu sais que j'ai un enfant au pays dont la mère est morte depuis longtemps. Il vit chez une vieille parente dans un coin si perdu qu'on n'y saura jamais rien de mon affaire. » L'argent qui me restait, je l'aurais envoyé, disant que je partais très loin en voyage. Et c'est sur toi que je compte, ma bonne Nini, pour t'informer de temps en temps de ce petit malheureux et m'envoyer de ses nouvelles. » Comme preuve de l'intérêt de Fanny, suivait une lettre de remerciement et une autre toute récente, ayant à peine 6 mois de date. « Oh, tu es bonne d'être venue. Que tu étais belle, comme tu sentais bon en face de ma veste de prisonnier, dont j'avais si grande honte. » Et Jean s'interrompait furieux. « Tu as donc continué à le voir ?»«
Oui, de loin en loin, par charité. »«
Même depuis que nous sommes ensemble ?»«
Oui, une fois, une seule au parloir, on ne les voit que là. » »«
Ah ! Tu es une bonne fille. » Mais cette idée que malgré leur liaison, elle visitait ce faussaire, l'exaspérait plus que tout. Il était trop fier pour le dire. Mais un paquet de lettres, le dernier, noué d'une faveur bleue sur des petits caractères fins et penchés, une écriture de femme déchaîna toute sa colère.
Je change de tunique après la course des chars, viens dans ma loge.
Non, ne lis pas ça. Elle sautait sur lui, arrachait et jetait au feu toute la liasse, sans qu'il eût compris d'abord, même en la voyant à ses genoux, empourpré du reflet de la flamme et de la honte de son aveu.
J'étais jeune, c'est caudal, ce grand fou. Je faisais ce qu'il voulait.
Alors seulement il comprit, devint très pâle. «
Ah oui, ça faut, toute la lyre !»
Et la repoussant du pied comme une bête immonde, « Ah, laisse-moi, ne me touche pas, tu me soulèves le cœur !» Son cri se perdit dans un effroyable grondement de tonnerre, tout proche et prolongé en même temps qu'une lueur vive éclairait la chambre.
Le feu !
Elle se dressa, épouvantée, prit machinalement la carafe restée sur la table, la vida sur cet amas de papier dont la flamme embrasait les suies du dernier hiver, puis le pot à eau, les cruches, et se voyant impuissante, des flamèches voltant jusqu'au milieu de la chambre, elle courut au balcon en criant « Au feu ! Au feu !» Les Ethémas arrivèrent les premiers, ensuite le concierge, les sergents de ville. On criait « Baissez la plaque,
Montez sur le toit, de l'eau, non, non, une couverture. » Atterrés, ils regardaient leur intérieur envahi et souillé. Puis l'alerte finit, le feu éteint. Quand le noir attroupement en bas, sous le gaz de la rue, se fut dissipé, les voisins rassurés rentraient chez eux. Les deux amants, au milieu de ce gâchis d'eau, de suie en boue, de meubles renversés et ruisselants, se sentirent écœurés et lâches, sans force pour reprendre la querelle ni faire la chambre propre autour d'eux. Quelque chose de sinistre et de bas venait d'entrer dans leur vie, et ce soir-là, oubliant leurs répugnances anciennes, ils allèrent coucher à l'autel. Le sacrifice de Fanny ne devait servir à rien. De ses lettres disparues, brûlées, des phrases entières retenues par cœur hantaient la mémoire de l'amoureux, lui montaient au visage en coups de sang comme certains passages de mauvais livres. Et ses anciens amants de sa maîtresse étaient presque tous des hommes célèbres. Les morts se survivaient. Les vivants envoyaient leurs portraits et leurs noms partout. On parlait d'eux devant lui et, chaque fois, il éprouvait une gêne comme d'un lien de famille douloureusement rompu. Le mal lui affinant l'esprit et les yeux, il arrivait bientôt à retrouver chez Fanny la trace des influences premières et les mots, les idées, les habitudes qu'elle en avait gardées, cette façon d'avancer le pouce comme pour façonner, pétrir l'objet dont elle parlait avec un « tu vois ça d'ici » appartenait au sculpteur. À De Joie, elle avait pris la manie des queues de mots et les chansons populaires dont il avait publié un recueil célèbre à tous les coins de la France. À La Gournerie, son intonation hautaine et méprisante, la sévérité de ses jugements sur la littérature moderne. Elle s'était assimilée tout cela, superposant les disparates par ce même phénomène de stratification qui permet de connaître l'âge et les révolutions de la Terre à ses différentes couches géologiques. Et peut-être n'est-elle pas aussi intelligente qu'elle lui avait semblé d'abord. Mais il s'agissait bien d'intelligence. Sotte pas qu'une, vulgaire et de 10 ans plus vieille encore, elle l'eût tenue par la force de son passé, par cette jalousie basse qui le rongeait, dont il ne taisait plus les irritations ni les rancœurs, éclatant à tout propos contre l'un et l'autre. Les romans de De Joie ne se vendaient plus. Toute l'édition traînait le quai à 25 centimes. Et ce vieux fou, le caudal, s'entêtant à l'amour à son âge. Tu sais qu'il a plus de dents ? Je regardais à ce déjeuner de Ville d'Avray. Il mange comme les chèvres sur le devant de la bouche. Fini aussi le talent. Quel four, sa faunesse du dernier salon ! Ça ne tenait pas. Un mot qui lui venait d'elle, ça ne tenait pas, et qu'elle-même gardait du sculpteur. Et quand il entreprenait ainsi un de ses rivaux du temps passé, Fanny faisait chorus pour lui plaire, et l'on aurait entendu ce gamin ignorant de l'art, de la vie, de tout, et cette fille superficielle frottait un peu d'esprit à ces artistes fameux, les juger de haut, les condamner doctoralement. Mais l'ennemi intime de Gossin, c'était Flamand le graveur. De celui-là, il savait seulement qu'il était très beau, blond comme lui, qu'on lui disait « mamie », qu'on allait le voir en cachette et que lorsqu'il attaquait comme les autres, l'appelant le forçat sentimental ou le joli réclusionnaire, Fanny détournait la tête sans un mot. Bientôt, il accusa sa maîtresse de garder une indulgence pour ce bandit, et elle dut s'en expliquer doucement, mais avec une certaine fermeté. Ben, « Tu sais bien que je ne l'aime plus, Jean, puisque je t'aime. Je ne vais plus là-bas. Je ne réponds pas à ses lettres. Mais tu ne me feras jamais dire du mal de l'homme qui m'a adoré jusqu'à la folie, jusqu'au crime. » Ah, cet accent de franchise, ce qu'il y avait de meilleur en elle, Jean ne protestait pas. Mais il souffrait d'une haine jalouse, aiguisée d'inquiétude, qui le ramenait parfois rue d'Amsterdam en surprise au milieu du jour, si elle est allée le voir. Non, il la trouvait toujours là, casanière, inactive dans leur petit logis, comme une femme d'Orient, ou bien au piano, donnant une leçon de chant à leur grosse voisine, Madame Théma. On s'était lié depuis le soir du feu avec ces bonnes gens, placides et pléthoriques, vivant dans un perpétuel courant d'air, portes et fenêtres ouvertes. Le mari, dessinateur au musée d'artillerie, apportait de la besogne chez lui, et chaque soir de la semaine, le dimanche toute la journée, on le voyait penché sur sa large table à tréteaux, suant, soufflant, en bras de chemise, secouant ses manches pour y faire circuler l'air, de la barbe jusque dans les yeux. Près de lui, sa grosse femme en camisole s'évaporait aussi, quoiqu'elle ne fît jamais rien, et pour se rafraîchir le sang, ils entamaient de temps en temps un de leurs duos favoris. Et l'intimité s'établit vite entre les deux ménages. Le matin, vers 10 heures, la forte voix d'Ethéma criait devant la porte « Y êtes-vous gossin ?» Et leur bureau se trouvant du même côté, ils faisaient route ensemble. Bien lourd, bien vulgaire, de quelques degrés sociaux plus bas que son jeune compagnon, le dessinateur parlait peu, bredouillait comme s'il avait eu autant de barbe dans la bouche que sur les joues, mais on le sentait brave homme, et le désarroi moral de Jean avait besoin de ce contact-là. Il y tenait surtout à cause de sa maîtresse, vivant dans une solitude peuplée de souvenirs et de regrets plus dangereux peut-être que les relations auxquelles elle avait volontairement renoncé, et qui trouvait dans Madame Théma, sans cesse préoccupée de son homme et de la surprise gourmande qu'elle lui ferait pour dîner, et de la romance nouvelle qu'elle lui chanterait au dessert, une relation honnête et saine. Pourtant, quand l'amitié se resserra jusqu'à des invitations réciproques, un scrupule lui vint. Ces gens devaient les croire mariés. Sa conscience refusait au mensonge, et il chargea Fanny de prévenir la voisine pour qu'il n'y eût pas de malentendu. Cela la fit beaucoup rire. Pauvre bébé, il n'y avait que lui pour des naïvetés pareilles. Mais ils ne l'ont pas cru une minute que nous étions mariés. Est-ce qu'ils s'en moquent? Si tu savais où il a été prendre sa femme, tout ce que j'ai fait, moi, c'est de la Saint-Jean à côté. Il ne l'a épousée que pour l'avoir à lui tout seul. Tu vois que le passé ne le gêne guère. Il n'en revenait pas. Une ancienne, cette bonne mère aux yeux clairs, au petit rire d'enfant sur des traits de chair tendre, au provincialisme traînard et pour qui les romances n'étaient jamais assez sentimentales, ni les mots trop distingués. Et lui, l'homme, si tranquille, si sûr, dans son bien-être amoureux. Il le regardait marcher à son côté, la pipe aux dents, avec de petits souffles de béatitude, pendant que lui-même songeait toujours, se dévorait de rage impuissante. « Ça te passera, mamie, » lui disait doucement Fanny, aux heures où l'on se dit tout. Et elle l'apaisait, tendre et charmante comme au premier jour, mais avec quelque chose d'abandonné que Jean ne savait définir. C'était l'allure plus libre et la façon de s'exprimer, une conscience de son pouvoir, des confidences bizarres et qu'il ne demandait pas sur sa vie passée, ses débauches anciennes, ses folies de curiosité. Elle ne se privait plus de fumer maintenant, roulant entre ses doigts, posant sur tous les meubles l'éternelle cigarette qui avelit la journée des filles, et dans leurs discussions, elle les mettait sur la vie, la famille des hommes, la coquinerie des femmes, les théories les plus cyniques, jusqu'à ses yeux, dont l'expression changeait, alourdie d'une buée d'eau dormante où passait l'éclair d'un rire libertin. Et l'intimité de leur tendresse se transformait aussi. D'abord réservée avec la jeunesse de son amant dont elle respectait l'illusion première, la femme ne se gênait plus, après avoir vu l'effet sur cet enfant de son passé de débauche brusquement découvert, la fièvre de marécage dont il lui avait allumé le sang, et les caresses perverses, si longtemps retenues, tous ces mots de délire que ses dents serrées arrêtaient au passage, elle les lâchait à présent, s'étalait, se livrait dans son plein de courtisane amoureuse et savante, dans toute la gloire horrible de Sappho. Pudeur, réserve, à quoi bon? Les hommes sont tous pareils, enragés de vice et de corruption, oh, ce petit-là comme les autres. Les appâter avec ceux qui les aiment, c'est encore le meilleur moyen de les tenir. Et ce qu'elle savait, ces dépravations du plaisir qu'on lui avait inoculé, Jean les apprenait à son tour pour les passer à d'autres. Ainsi le poison va, se propage, brûlure de corps et d'âme, semblable à ces flambeaux dont parle le poète latin et qui couraient de main en main par le stade.